disais tout à l'heure, on est heureux d'accueillir Michael, que nous connaissons, Michael Guilherme, donc de Toulouse, voilà, qui est déjà venu plusieurs fois dans notre assemblée. Voilà, c'est lui qui va nous apporter le conseil de Dieu ce soir. On profite pendant ces moments de Zoom pour les avoir plus facilement ceux qui sont loin. Voilà. Que Dieu te bénisse.
Merci. En tout cas, bonjour à tous. Donc, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Et c'est vrai que ces moments de confinement, ça nous permet d'être reliés les uns aux autres différemment. Ce n'est pas au travers d'un local, mais c'est au travers de visioconférences. Mais je crois que malgré le fait qu'on puisse être séparés par des kilomètres, on peut être pleinement unis par un même esprit. Moi, je me rends compte au travers de ces moments qu'au final, on peut être dans un même bâtiment et spirituellement être à des kilomètres les uns des autres, tout comme on peut être à des kilomètres les uns des autres, mais spirituellement unis, parce qu'on n'est pas juste dans un seul et même bâtiment, mais dans un seul et même esprit. Et je crois aussi, par contre, que quand on est unis spirituellement, on a ce désir, ce besoin de se retrouver les uns avec les autres, et que le Seigneur puisse faire que bientôt, on puisse se réunir ensemble physiquement. Alors ce soir, j'avais à cœur de parler à propos de la prière. Je crois que en tant qu'enfants de Dieu, nous aimons à prier, nous voulons prier, mais je crois que notre désir, plus que de prier, c'est d'être exaucé. Je pense que chacune des personnes ce soir qui vient à une réunion de prière ne vient pas juste pour prier, mais elle vient pour être exaucée par le Seigneur. Et on voit que les disciples, les premiers disciples de Jésus, lui avaient demandé à certains moments d'être enseignés à prier. Les disciples diront à Jésus à un moment, enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a fait avec ses disciples. Et concernant la prière, Jésus a donné énormément d'enseignements. Du début de la Bible jusqu'à l'Apocalypse, on voit des enseignements sur la prière. Et ce soir, j'aimerais qu'on prenne alors pas la totalité, c'est impossible, mais que l'on prenne deux ou trois points par rapport à la prière, des choses que je pense pas je vais vous apprendre, mais qui sont bons de se rappeler, de se remémorer, non pas pour prier, mais pour prier de manière à être exaucé. Alors je vous propose qu'on prenne un premier texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. C'est donc dans le sermon sur la montagne. Un long sermon que Jésus a apporté. Et dans ce sermon, il parle de la prière, et notamment au chapitre 6, donc Matthieu chapitre 6, et on va lire à partir du verset 5. Il va dire ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Donc il y aurait énormément de choses à dire sur ce texte, mais particulièrement au verset 7, Jésus va dire, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et Jésus rajoute, ne leur ressemblez pas. Donc on voit au travers de ce texte que la prière, ce n'est pas une question de parole, de nombre de paroles. Jésus dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prier longtemps, qu'on peut au travers de la prière dire beaucoup de paroles sans pour autant être forcément exaucé. Ce qui fait l'exaucement de la prière, ce n'est pas une question de mots, de termes que l'on utilise ou de longueur de prière, ce n'est pas ça qui fait que l'on est exaucé. On voit dans la Bible que Dieu ne regarde pas aux paroles ou aux mots que l'on utilise ou à la manière dont on prie. Dieu regarde au cœur. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prier? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas persévérer? Non. Il faut être équilibré dans l'enseignement parce que la Bible nous dit que des fois on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Et la Bible nous dit aussi que Jésus et les disciples, les premiers disciples, ils persévéraient dans la prière. Mais c'est une chose que de persévérer dans la prière, c'en est une autre que de croire que persévérer dans la prière, c'est multiplier les paroles. Ce n'est pas la même chose. Quand Jésus va parler des pharisiens, c'était des juifs qui priaient énormément. C'était des juifs qui même jeûnaient deux fois par semaine. Donc, pour eux, ils étaient très pieux. Et en parlant d'eux, Jésus va rappeler cette parole d'Ésaïe, qui était écrite dans Ésaïe chapitre 29, verset 13. « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il s'approche de moi, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire que l'on peut s'approcher de Dieu physiquement, donner l'impression de s'approcher de Dieu en venant en réunion, en utilisant certains mots, même des fois en étant long dans les prières, et pourtant avoir le cœur qui est éloigné de Dieu. Ce peuple s'approche de moi, mais son cœur est éloigné de moi. On voit qu'il peut y avoir un paradoxe. Et prier, la première chose que j'aimerais juste rappeler, c'est que prier, avant d'être une question de parole, c'est d'abord s'approcher de Dieu avec son cœur. La prière, c'est d'abord venir dans la présence de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 16, l'auteur, il dit ceci. « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Il dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir. » Donc, en d'autres termes, si on raccourcit le verset, si on prend les verbes, il dit « Approchons-nous afin d'obtenir. » La prière est efficace, vous savez. C'est pas ce qui fait que la prière est efficace, ce n'est pas la puissance de la prière en elle-même. Ce n'est pas celui qui prie qui fait changer les choses, mais c'est celui qui entend la prière. Et l'important de réaliser lorsque la chose importante à réaliser lorsque l'on prie, c'est que le plus important, ce n'est pas tant que ce soit moi qui prie, mais c'est surtout que ce soit Jésus, que ce soit celui qui est assis sur le trône de la grâce qui l'entende. Ce serait dommage de passer un temps de prière, de prier, de multiplier des paroles, sans en réalité passer de temps dans la présence de Dieu ou réaliser à qui on s'adresse. Vous connaissez cette prière du Notre Père, celle qu'on appelle le Notre Père, le Notre Père. Ça commence par « Notre Père qui êtes aux cieux ». Lorsque l'on prie, on demande quelque chose à quelqu'un. Et il est bon de réaliser à qui on demande, à qui on adresse nos prières. Parce que à moi, il y a plein de choses qui ne sont pas possibles, qui sont même impossibles. Mais à Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et lorsque je prie, je dois réaliser que la prière, avant tout, c'est s'approcher de Dieu et c'est lui adresser à lui mes prières et mes requêtes. Ce n'est pas une question de temps ou de nombre de paroles ou de mots choisis. C'est une question d'être dans sa présence. Il nous est dit, donc dans Hébreux chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. » S'approcher avec assurance. Et j'aimerais qu'on fasse une autre lecture dans la première épître de Jean, donc un petit peu avant l'Apocalypse. Dans la première épître de Jean, il nous est parlé d'assurance lorsque l'on prie. Il nous est parlé que l'on peut avoir de l'assurance de telle sorte que ce que l'on demande, on est sûr que l'on va être exaucé. Avoir de l'assurance devant Dieu. Et on va lire un premier texte, donc dans la première épître de Jean, au chapitre 3. Et on va lire au verset 21, à partir du verset 21. Donc, première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 3. Verset 21. Voilà ce que va dire Jean. « Bien-aimés, Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Donc on voit dans ce texte qu'il nous est dit que l'on peut avoir de l'assurance devant Dieu, vous voyez, devant Dieu, dans sa présence si vous voulez. Donc là, c'est une question d'être dans sa présence. Mais on peut être dans sa présence et avoir de l'assurance que quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Quelle grâce! Ça veut dire qu'on peut arriver à un état tel que tout ce que je vais demander à Dieu, je peux avoir de l'assurance qu'il va m'écouter. Alors, c'est quoi cette condition? Parce qu'au verset 21, il nous est dit « Bien-aimé, si ». Donc, il y a une condition. Si on n'accomplit pas cette condition, ce n'est pas possible d'avoir cette assurance devant Dieu. Il nous est dit, donc, au verset 21, « Si notre cœur ne nous condamne pas, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Pour avoir de l'assurance devant Dieu, et lorsque je prie, j'ai besoin d'avoir une bonne conscience ou de ne pas avoir un cœur qui me condamne. C'est la même chose. Je ne peux pas me présenter devant Dieu avec assurance, avec une conscience qui est chargée de péché, une conscience qui est tachée par des choses que je n'ai pas faites. Quand on se présente devant Dieu, on doit se présenter avec une bonne conscience. On ne s'approche pas n'importe comment de Dieu. Oui, tous on peut s'approcher, parce que Dieu est sur le trône de la grâce et qu'il pardonne tous les péchés, mais même si on peut tous s'approcher, on doit s'approcher quand même d'une certaine manière, avec une bonne conscience. On va prendre un exemple. L'exemple d'un enfant qui a fait une bêtise. Vous savez, si vous êtes parent, vous avez des enfants, quand tout va bien, les enfants, ils sont là, ils font du bruit, ils crient, hop, ils passent devant vous, etc. Puis dès qu'ils ont fait une bêtise, silence. Comme s'ils vous fuyaient, vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une bonne conscience. Et bien, c'est un peu pareil avec nous. Vous savez, quand on veut prier et s'approcher de Dieu, si on n'a pas une bonne conscience, à un moment, on va être bloqué. C'est comme s'il va y avoir une séparation entre nous et Dieu. D'ailleurs, ce qui met une séparation par définition entre nous et Dieu, c'est le péché. Dans Ésaïe, au chapitre 59, l'Éternel rappelle que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. La main de l'Éternel n'est pas inaccessible. Ce que l'Éternel a fait il y a des années, il peut encore le faire aujourd'hui. Les miracles qu'il a fait il y a des années en arrière, il peut exactement faire les mêmes aujourd'hui. Il ne s'est pas affaibli. Il est tout autant fort qu'avant. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais ce qui change des fois, c'est notre conscience. Là, verset 22, dans 1 Jean chapitre 3, verset 22, il dit « Donc quoi que ce soit que nous demandions de lui, nous le recevons parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Garder ses commandements et faire ce qui lui est agréable. Et c'est vrai que peut-être dans la journée ou dans la semaine, j'ai fait des choses qui ne lui ont pas été agréables. Ou alors, je n'ai pas gardé ses commandements. Et à cause de ces choses-là, je n'ai pas bonne conscience. Et à cause de cela, je ne peux pas m'approcher de Dieu et le prier avec assurance parce que je sais qu'entre lui et moi, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Parce que je sais que je n'ai pas bonne conscience. L'apôtre Pierre, dans son épître, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, parle de certaines choses qui font obstacle à la prière. Alors, on ne va pas le lire pour ne pas être trop long, mais donc c'est 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Il dit de faire certaines choses afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Et quand on regarde de quoi il parle, juste avant, on voit par exemple qu'il parle de conflit entre mari et femme. Eh oui, si je suis en conflit avec mon conjoint, que je veux m'approcher de Dieu, il va y avoir comme un blocage. Il faut d'abord que je règle le conflit. Un petit peu avant, il est parlé des rapports avec les autorités. Si je suis dans la rébellion, si je suis tout le temps rebelle aux autorités, même de ce pays, je risque d'avoir de la difficulté ou de ne pas pouvoir m'approcher de Dieu. Et au final, si je ne règle pas ces choses-là, je ne peux pas avoir de l'assurance devant Dieu. Jésus dira, mais lorsque tu présentes ton offrande, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande, va te réconcilier d'abord, et puis ensuite, tu viendras apporter ton offrande. Donc, on voit qu'il peut y avoir des obstacles qui font qu'au final, si j'ai mauvaise conscience, je peux prier, je peux multiplier les paroles, je peux même jeûner le temps que vous voudrez, je n'aurai absolument aucune assurance devant Dieu parce que ma conscience m'accusera. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne conscience? Est-ce que ça veut dire qu'il faut mériter l'exaucement de nos prières? Non, ce n'est pas ça. Mais le péché, c'est quelque chose que l'on doit régler. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne conscience? Ben, si vous tournez une page en arrière et que vous allez au début de cet épître de Jean, donc dans 1 Jean au chapitre 1er, au verset 8, il nous est dit, donc 1 Jean chapitre 1er, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. On voit la clé pour avoir une bonne conscience. C'est de confesser son péché à Jésus et de croire que son sang est efficace et suffisant pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et lorsque je m'approche de Dieu, vous savez, il y a des choses qui reviennent à la conscience. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, vous approchez de Dieu et d'un seul coup, il y a quelque chose qui revient à la conscience. Ah, j'ai fait ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ça sur ma conscience? Ou est-ce qu'au contraire, je le confesse au Seigneur, je lui demande pardon? Et surtout, si je peux, je le règle. Si je dois aller demander pardon à ma femme, à mon mari, à mes enfants ou à mes parents ou vice-versa, ou si je dois régler quelque chose au travail, ou s'il y a quelque chose des fois qui remonte à bien plus loin que je dois faire, s'il y a un conflit que je peux régler mais que je ne veux pas régler, etc., eh bien, en réalité, lorsqu'on s'approche de Dieu et que notre conscience nous montre quelque chose, eh bien, j'ai ce choix de pouvoir le régler. Et si je le règle, eh bien, je peux aller plus loin dans la présence de Dieu et avoir de l'assurance devant lui. Vous savez, s'approcher de Dieu, c'est Dieu est lumière. Vous savez, plus il y a de la lumière, plus on voit les choses. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais nettoyé mon appart et je pensais que tout était propre. Jusqu'à ce qu'il y ait un rayon de lumière qui passe par la fenêtre, ben, ce n'était pas si propre que ça. Vous voyez ? Plus il y a de la lumière, plus on voit les choses. Et plus on s'approche de Dieu, plus notre conscience est mise à nu. Et plus on peut avoir des choses à apporter au Seigneur. Mais quel que soit le péché, le Seigneur, il le pardonne à partir du moment où on s'en repent, on le confesse devant lui. Et une fois qu'on le confesse et qu'on croit en l'efficacité de son sang à la croix, eh bien, je retrouve une bonne conscience et je peux avoir cette assurance devant lui. Mais si je ne fais pas ça, alors je ne peux avoir aucune assurance. Et ce que je viens de décrire, le fait d'être confessé son péché et de l'apporter au Seigneur et de croire en son salut, en son pardon, ben c'est ce que la Bible appelle et l'épître de Jean appelle marcher dans la lumière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de ténébreux qui est révélé, je le confesse à Jésus pour que ça soit effacé et qu'il n'y ait que de la lumière dans ma vie. Donc ça, c'est la première chose pour avoir de l'assurance devant lui. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Celui qui est sur le trône, c'est celui qui a choisi de nous faire grâce. Et quand je m'approche de Dieu avec mes péchés repentants, le Seigneur, il nous pardonne nos péchés et il nous redonne une conscience pure. David dira, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et il va dire, je n'ai pas caché, j'ai avoué mes transgressions et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Donc au final, la piété, c'est pas être sans faute, mais c'est à chaque fois que le Seigneur m'en montre une que j'ai commise, je la règle. Et c'est ça, marcher dans la lumière, et c'est ce qui me donne de l'assurance devant lui. Ça, c'est la première chose pour avoir de l'assurance. La deuxième chose, on le retrouve à la fin de cet épître de Jean, dans 1 Jean donc, mais on va au chapitre 5 maintenant. Et là aussi, il nous est parlé d'assurance pour obtenir de Dieu ce qu'on lui demande. C'est dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. Donc l'apôtre Jean dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Amen. Nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Et là, il nous est dit aussi au verset 14, « Nous avons auprès de lui cette assurance. » Pour avoir de l'assurance lorsque je prie, oui, il me faut cette bonne conscience, mais il nous faut aussi prier selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est important. Prier Dieu, ce n'est pas imposer à Dieu sa volonté. Bien souvent, on s'approche de Dieu avec nos sujets de prière. C'est bien, parce que le Seigneur, il dit « faites connaître vos besoins ». Donc, c'est une très bonne chose que de s'approcher de Dieu et de lui faire connaître nos besoins. Mais des fois, on lui fait connaître nos besoins et notre volonté. La prière, souvent, ça peut être « Seigneur, s'il te plaît, voilà le problème, j'aimerais que tu fasses ça pour moi. » Mais je crois que prier, ce n'est pas simplement demander, c'est aussi chercher la volonté de Dieu. Parce que bien souvent, on a des sujets de prière, mais on ne connaît pas quelle est sa volonté. Et parce qu'on ne connaît pas quelle est sa volonté, on n'a pas d'assurance. Et bien souvent, la vraie foi, c'est elle s'exprime avec un cœur qui est soumis. Quand Jésus enseigne à prier, la prière du Notre Père, il dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit que ta volonté soit faite. Lorsque Jésus va aller à Gethsémané qu'il va prier, il va dire non pas ma volonté, mais la tienne. Prier, ce n'est pas imposer à Dieu sa volonté. Prier, ce n'est pas un combat, un pourparler avec Dieu pour gagner Dieu à sa cause et pour le contraindre à accomplir notre volonté. Prier Dieu, ce n'est pas utiliser Dieu comme notre serviteur. Prier Dieu, c'est avant tout se soumettre à lui. Et la vraie foi, elle consiste en croire que Dieu peut tout, mais c'est aussi croire que Dieu est au-dessus de tout. Et dire que j'ai la foi, croire réellement en Dieu, c'est avant tout me soumettre à lui. Alors bien sûr, sans la foi, des fois, il y a des non-exaucements par manque de foi. Hein, Jésus, dans certaines villes, n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Et croire en Dieu, c'est croire qu'à Dieu, rien n'est impossible. Mais c'est une chose de croire que rien n'est impossible à Dieu, c'en est une autre de vouloir lui imposer sa propre volonté. Et je dois, lorsque je prie, chercher quelle est sa volonté. Parce que lorsque je connais sa volonté, je peux avoir de l'assurance devant lui. Parce que ce que le Seigneur dit, sa volonté, il l'accomplira. Et combien il est important lorsque l'on prie de s'appuyer sur la parole de Dieu, d'être dirigé par son esprit, parce que la parole de Dieu et l'esprit de Dieu nous révèlent quelles sont sa volonté. C'est le moyen d'avoir de l'assurance devant lui. Et si pour accomplir sa volonté, il faut qu'il y ait une montagne qui soit déplacée, ou je dise à une montagne, jette-toi dans la mer. Si c'est dans la volonté de Dieu, la montagne, elle sera jetée dans la mer. Pas parce que je suis fort, mais parce que Dieu le fera, parce que c'est dans sa volonté. Et bien des fois, on prie, on persévère dans des choses, sans avoir au préalable demandé à Dieu quelle était sa volonté. Eh bien, des fois, on entend des chrétiens être, entre guillemets, hein, mais alors vraiment beaucoup de guillemets, être déçus de Dieu, ce qui est pas bien. Mais ils n'ont pas été déçus de Dieu, c'est juste qu'ils ont demandé à Dieu qu'il fasse leur volonté, et Dieu ne l'a pas fait, parce que sa volonté était autre. Combien il est important de chercher la volonté de Dieu. La foi, elle s'appuie sur les paroles de Dieu. La vraie foi, ce n'est pas avoir une sorte d'entrain, une sorte de zèle dans la prière, pensant qu'en ayant ce zèle, Dieu va faire ce que je demande. La vraie foi, c'est d'abord se soumettre à Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul, on peut dire que c'était un sacré disciple. Je pense que personne ne peut dire qu'il arrive au niveau de l'apôtre Paul. Et c'est vrai que quand on voit la vie de Paul, il y a eu énormément de miracles dans sa vie. Il a guéri des malades. C'est magnifique ce que Dieu a fait au travers de l'apôtre Paul. Mais à un moment, on peut prendre dans la deuxième épître aux Corinthiens, on va y aller ensemble, la deuxième épître aux Corinthiens, il va parler d'une expérience qu'il a faite, d'un moment où il a prié. 2 Corinthiens 12. Et on va lire au verset 7. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. » Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Regardez, il va prier. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Là, on voit un moment où Paul va prier Dieu. Il va prier. Alors, ça ne nous est pas dit combien de temps il va le faire. Il nous est dit qu'il l'a fait par trois fois. On ne sait pas combien de temps ça a duré, ces trois fois-là. Mais bon, il a prié. Et il nous est dit que Dieu lui répond, « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » On voit que Dieu, à un moment, lui dit que cette écharpe ne sera pas ôtée, parce qu'il veut que sa puissance repose sur Paul et pour qu'il ne s'enorgueillisse pas à cause des révélations qui lui ont été données. Et vous savez, beaucoup vont dire bah, « Paul n'a pas été exaucé ». Eh bien, c'est faux. Paul a été exaucé parce que lorsqu'il a prié, on voit qu'il a cherché la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu lui a exprimé sa volonté, il s'y est conformé. Puisque juste après, il dit « C'est pourquoi je me plais ». C'est-à-dire que la faiblesse qu'il cherchait à être délivré, lorsque Dieu lui a exprimé qu'au final c'était sa volonté et qu'il lui a dit pourquoi, eh bien, il s'est conformé à cette volonté. En réalité, Paul, à ce moment-là, a été exaucé. Parce que l'exaucement de la prière, ce n'est pas que Dieu fasse ma volonté. L'exaucement de la prière, c'est surtout que je me conforme à la sienne et qu'au final, il agisse selon sa volonté. Et je crois que lorsque l'on prie, il est important de s'appuyer sur les promesses que Dieu nous donne dans sa parole. Parce que lorsque l'on s'appuie sur sa volonté, qu'on a cette bonne conscience, eh bien, on peut avoir cette assurance devant lui et savoir au final que ce qu'on lui donne, lui demande, il va l'accomplir parce que c'est selon sa volonté. Et lorsqu'on sait qu'il nous écoute et qu'on possède déjà la chose qu'on lui a demandée, eh bien, je crois que l'expression de la foi, c'est simplement de le remercier. Parce que ce n'est qu'une question de temps avant que nos yeux voient ce que le Seigneur va accomplir, puisqu'on aura prié selon sa volonté. Et quand on prie, vous savez, il y a plein de promesses dans la parole de Dieu. Il y a plein de fois où le Seigneur a déjà exprimé ce qu'il voulait faire. On voit que le Seigneur, par exemple, il dit que lorsqu'il aura été élevé, il attirera tous les hommes à lui. On peut prier avec assurance pour que les hommes soient attirés à lui, pour que dans la ville d'Aubagne, la ville de Toulouse, la ville en France, même dans le monde, que les âmes encore maintenant soient attirées par lui. La Bible nous dit que ce qu'il a commencé, il l'achèvera, que ce que les mains de Jésus ont commencé, ses mains l'achèveront, que l'Église puisse continuer d'être édifiée puisse continuer, qu'il y ait des pierres vivantes qui soient ajoutées. Ça, on peut prier avec assurance, parce qu'il l'a dit. Demander que les yeux des cœurs soient illuminés. L'apôtre Paul fera cette prière. On sait qu'elle est selon sa volonté. Donc, lorsque je demande à ce que des yeux soient illuminés sur Jésus-Christ, eh bien, je peux prier avec assurance. Lorsque je demande à ce que je sois rempli du Saint-Esprit, bah, c'est une promesse qu'il a faite. Il a dit que la promesse, elle est pour tous, en aussi grand nombre que le Seigneur nous appellera. Donc, je peux avoir de l'assurance devant lui. Quand je vois dans sa parole qu'il donne de la force, qu'il donne de la consolation, qu'il donne de la paix, qu'il donne de la joie, si je demande ces choses-là avec assurance, bah, je peux plus que demander en réalité. Par la foi, je peux prendre ce que le Seigneur a choisi de me donner. Et lorsque j'ai pris, eh bien, je peux lui être reconnaissant. Et lorsque j'ai exercé ma foi, bah, la Bible dit, si tu crois, tu verras. Et lorsque j'exerce la foi de cette manière-là, j'ai de l'assurance. Et en plus de cela, après, mes yeux voient que ce que le Seigneur a promis, il l'a réellement accompli et je peux le glorifier. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que, oui, prier, ce n'est avant tout, c'est s'approcher de toi. Et Seigneur, oui, nous voulons nous approcher de toi. Et nous voulons te prier, Seigneur, de manière à avoir cette assurance devant toi. Merci parce que ton sang a coulé. Et merci parce que si tu es allé à la croix, c'était pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché et de toute iniquité. Et merci pour cette grâce de pouvoir se présenter devant toi avec une conscience pure. Merci parce que oui, sur le trône de la grâce, Seigneur, oui, aujourd'hui nous te voyons élevé, couronné, mais merci parce que ce grand roi que tu es un jour a choisi la croix. Tu as choisi la couronne d'épines, tu as choisi le roseau, tu as choisi que tes mains soient percées. Et merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui est bon, qui est miséricordieux. Ta volonté Seigneur, c'est de bénir tes enfants, c'est de sauver tous les hommes. Et pour cela, nous voulons te dire merci. Seigneur, lorsque nous te prions, c'est vrai que nous ne voulons pas t'imposer notre volonté. Mais au contraire, nous voulons être de plus en plus soumis à toi, à ton écoute Seigneur. Et nous voulons te demander que tu puisses nous révéler ta volonté, afin que nous puissions te prier avec assurance. C'est ce que nous voulons te demander dans le nom de Jésus. C'est vrai que lorsque tu nous parles, combien il y a cette paix, combien il y a cette joie, combien il y a cet amour, Seigneur, que tu mets dans nos vies. Et Seigneur, c'est cela que nous désirons. Alors Seigneur, bénis la suite de ce temps et que ton nom soit glorifié. Amen.
Si peut-être quelques-uns veulent prier encore, quelques-uns qui élèvent la voix par rapport.